Gaston Courtois, Richard de Sèze.
Et bienvenue dans cette deuxième partie. Lucien Rabouille va nous rejoindre dans un instant où nous recevons Philippe Erlin, parce que Philippe Erlin nous a annoncé le 1er mai qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Alors, j'en ai déjà parlé l'autre jour, mais je ne résiste pas, vous me pardonnerez Philippe, de répéter votre profession de foi. Nous ne sommes pas le 1er avril, non, nous sommes le 1er mai. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi le 1er mai pour annoncer ma candidature? Parce que j'emmerde les syndicats. Et voilà. Ok, on sait. Ok, donc on a l'impression effectivement que vous avez décidé qu'il était temps de porter une parole économique. Vous êtes professeur d'économie, voilà, vous avez écrit des dizaines d'ouvrages, enfin vous avez écrit plusieurs livres sur l'économie, l'or, les bitcoins, mais aussi le système financier. Enfin, voilà, vous êtes, vous savez comment marche l'économie, contrairement à Sébastien Lecornu, contrairement à Emmanuel Macron. Enfin, en tout cas, si jamais il prétend qui savent, vu les résultats de la France, on peut en douter. Et vous partez avec un slogan simple qui est appelé, je suis allé sur votre site de campagne, à se développer. Le slogan est assez simple, c'est des bitcoins et des prisons. Et, donc, voilà, est-ce que vous pourriez délabyrinter un peu et nous expliquer pourquoi les bitcoins et pourquoi les prisons?
Oui, parce que je fais référence à Nayib Bukele, qui est le président du Salvador, qui est le chef d'État qui bénéficie de la cote de popularité la plus élevée au monde, dans tous les pays.
Dans son pays.
Dans tous les pays démocratiques du monde, c'est lui qui a la cote de popularité la plus élevée. Il est à plus de 90%. Voilà, je rappelle que Macron, il est à 15%. Bon, voilà. Parce qu'il fait partie des moins bons, Macron d'ailleurs, dans ce classement. Et pourquoi est-ce qu'il obtient une cote de popularité aussi élevée, alors que le Salvador, il y a 10 ou 20 ans, c'était un pays complètement en faillite, avec des meurtres. Voilà, bon. Et bien parce qu'il a réussi sur les deux plans, l'économie et la sécurité. Voilà. Et ça, c'est le message que je veux faire passer auprès des électeurs et auprès de la droite en général. Il faut être très bon sur les deux domaines. Si vous êtes bon sur un domaine et moyen ou mauvais sur l'autre, vous ne pourrez pas réussir. Voilà. Vous ne pourrez pas vous faire élire. Ou si vous êtes élu, bah, vous ne pourrez pas vous maintenir au pouvoir et garder la confiance de la population. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Bukele? Il a libéralisé l'économie. Et ça se matérialiste, c'est un peu symbolique, mais il parle de Bitcoin parce que c'est le premier pays au monde qui a considéré que le Bitcoin pouvait être une monnaie légale, c'est-à-dire acceptée par tous les commerçants du pays. Voilà, ce que je trouve même un peu trop excessif d'ailleurs, on pourrait y revenir plus tard, mais bon, le Bitcoin, et donc ça a fait un coup de tonnerre quand c'est sorti, parce que les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est? Déjà, ils ne savaient pas passer le Salvador sur une carte, d'où ça vient cette idée? Bon, et donc, le Bitcoin, et puis il y a tout un projet de développement, et puis le pays acquiert des Bitcoins, et il les fait bien, parce que vu l'augmentation du cours, bah, le pays s'est enrichi sur un stock de Bitcoin. Donc ça, c'est la première chose. Et puis sur la sécurité, bah, il a eu quelque chose de très radical, c'est qu'il a construit rapidement plusieurs prisons de haute sécurité, et qu'il a enfermé tous les gangs. Alors, les choses étaient assez faciles au Salvador, parce que les gangs, pour se reconnaître entre eux, se faisaient des tatouages. Donc les mecs étaient marqués en quelque sorte. Effacer un tatouage, c'est un peu compliqué, ça prend du temps. Et donc c'était très facile de contrôler si quelqu'un était membre d'un gang ou pas. Il suffisait de le mettre torse nu et de lire ses tatouages. Et donc il a pu mettre tous les gangs en prison. Et du jour au lendemain, bah, l'insécurité s'est complètement effondrée. C'est-à-dire un des pays qui était les plus dangereux, où il y avait plus de meurtres au monde. Maintenant, c'est un des pays les plus sûrs du monde. Il y a plus d'un an où il n'y a pas eu un seul meurtre. C'est-à-dire, c'est en dessous de la France, hein, parce que la France, on compte tous les règlements de compte liés à la drogue. Bon. Voilà, donc c'est devenu un des pays les plus sûrs du monde. Et tout ça dans un délai très rapide. Donc j'ai dit, bah voilà un bel exemple.
Oui, parce que Bukele s'est fait élire en 2024, si je ne m'abuse.
Voilà, enfin réélire en 2019. Et il s'est fait réélire brillamment. Voilà, donc il a obtenu des résultats tout de suite. Alors, il a commencé par l'économie. Pour la prison, les prisons, c'est bien un peu plus tard, parce qu'il fallait qu'il y ait une majorité un peu plus large quand même pour mettre en place cette politique. Voilà. Mais maintenant, c'est fait. Et maintenant, il est au firmament. Donc, je dis, bah, c'est peut-être un bon exemple à prendre. Hein, voilà. Donc, je synthétise ça dans mon slogan qui au début peut surprendre ou il peut dérouter, mais c'est fait pour ça, parce que les slogans un peu gentillés, la France demain, les oiseaux vont chanter, tout, bon, c'est
la force tranquille.
La force tranquille, bon, c'est encore celui-là, bon, mais bon, les slogans, c'est toujours un peu neuneux. Celui-là, au moins, il surprend et il interroge. Les gens, d'où ça vient ce slogan? Ben voilà, ça vient de ça, et des bitcoins et des prisons, c'est-à-dire de la liberté économique, de la prospérité et de la sécurité. Tous ceux qui commettent des crimes, mais et qui sont condamnés, doivent aller en prison. C'est-à-dire, le bracelet, c'est terminé. Hein? Même si vous êtes condamné qu'à 2 mois, vous faites 2 mois de prison. Voilà. Et pas dans une prison surpeuplée. Parce qu'une prison surpeuplée, c'est l'école du crime. Vous allez être mis dans une cellule avec des mecs qui ont des CV de criminels longs comme le bras, bon, ça, vous risquez de mal tourner. Non, il faut qu'il y ait des cellules individuelles et de façon aussi à garantir la sécurité de chaque prisonnier. Hein. Donc, la prison, c'est pas la surpopulation. Voilà, la prison, c'est la privation de liberté, point. Mais c'est pas l'oppression avec dans une petite cellule. Voilà. Donc construire des prisons rapidement,
une promesse que font tous les candidats à la présidentielle.
C'est pas une proposition absolument originale. Moi, je suis venu ce soir pour essayer de présenter des propositions originales. Celle-ci n'est pas tout à fait originale. Il y en a beaucoup qui le disent. C'est ce qu'a dit Macron en
absolument.
2017. Hein.
Oui, oui.
Et il y a eu zéro construction. Bon.
Nous étions sur ouvrir des écoles. Nous sommes aussi sur ouvrir des prisons. La thématique est très hugolienne ce soir.
Voilà,
sur Restons Courtois, Richard de Sèze.
Ouvrons tous les possibles.
voilà. Et la liberté scolaire. Ouais,
la liberté scolaire,
j'écoutais
Augustin et Yvan et je me disais que vous étiez forcément d'accord avec le chèque scolaire, par exemple.
Bien sûr, absolument, le chèque scolaire. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une sorte d'équilibre, d'accord tacite, 80% d'écoles publiques et 20% d'écoles privées, et il ne faut pas dépasser, quoi. Même si les parents veulent mettre leurs enfants plutôt à l'école privée. Je dis, il faut faire sauter cette contrainte qui est inscrite nulle part dans aucun texte de loi. Hein. Voilà, hein.
Vous avez raison, c'est une espèce d'accord entre factions rivales.
Voilà, absolument. Voilà. Donc il faut mettre le chèque scolaire en place progressivement.
Et donc, scolaire, donc, c'est dire aux parents, on vous donne de l'argent, cet argent, vous allez l'investir, entre guillemets, dans tel établissement plutôt que tel autre. Enfin, si vous avez envie de choisir le lycée Jean Moulin, choisissez le lycée Jean Moulin. Si vous avez envie de choisir le lycée Blaise Pascal, choisissez le lycée Blaise Pascal, le collège Sainte-Marguerite-Marie.
Mais pas que pour avantager le secteur privé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme
non,
ça non
mais
plus.
Quand je parle du lycée Jean Moulin, il y a quand même peu de chances que ce soit le privé. Hein,
voilà. Mais c'est aussi pour. Il faut aussi qu'il y ait.
J'aurais dû dire le lycée Rosa Parks.
Rosa Parks, ouais, oh là. Il faut aussi qu'il y ait plus d'autonomie, que les lycées publics puissent aussi jouer leurs cartes, s'améliorer, etc. Et qu'il y ait une saine concurrence entre différents établissements, publics ou privés. Il ne s'agit pas de dire on va avantager le privé et le public, tant pis. Non.
D'ailleurs, c'est exactement le projet de la Fondation pour l'école. Ils réclament de la liberté pour tous.
Je les connais, donc je connais leurs écrits, donc c'est très bien. C'est très bien.
Le chèque scolaire, donc, c'est une proposition intéressante. Voilà, elle est portée par d'autres. Les prisons, évidemment, tout le monde en voit les bienfaits. Surtout, ça fait partie des promesses non tenues par Macron. Donc on se dit, s'il ne l'a pas tenu, c'est qu'il aurait dû le faire. Donc c'est sans doute une bonne idée. Plus originale dans celle que vous portez, d'abord ce pilier économique.
Parlons des syndicats, parce que vous avez cité mon annonce.
Mais oui,
vous dites
Jean-Mère, les syndicats qui sont opposés à la timide réforme du gouvernement.
Pourquoi ces individus insultent les syndicats qui sont des partenaires sociaux que tout le monde adore? Bon, non. Moi, j'ai dit les syndicats ras-le-bol. Voilà, les syndicats, il y en a marre. Les syndicats, pour moi, c'est une des causes de l'appauvrissement économique de la France. Parce qu'ils se sont des boulets, ils bloquent. Et justement, le dernier exemple en date, on l'a eu, c'est que le gouvernement a voulu faire une timide réforme pour permettre à ce que plus de professions puissent travailler le 1er mai. Les syndicats se sont fâchés, ils n'ont même pas fait grève ou rien, mais ils ont fait les gros yeux et le gouvernement s'est écrasé. Quoi. Et je trouve ça effarant parce que ça n'allait quand même pas très loin de simplement permettre à ce que des professions comme les boulangers et les fleuristes puissent effectivement ouvrir le 1er mai. Bon. Et ça, c'est vraiment énervant, mais ça va au-delà. Je prends un autre exemple. Les ports français, on a trois façades maritimes. On pourrait avoir des ports qui vraiment créent de l'activité et des emplois. À cause des dockers qui sont surpayés, qui font des horaires limités et qui se mettent en grève pour un oui, pour un non, sur tout ça, eh bien, une grosse partie du trafic va ailleurs. Le trafic du Havre va à Anvers et à Rotterdam. Le trafic de Marseille va à Gênes. Et tout ça, ce sont des milliers d'emplois perdus, des milliers d'emplois directs dans les ports et indirects dans la logistique, parce que on a trois façades maritimes et un système logistique assez développé, que ce soit routier ou par le train. Donc on pourrait avoir des dizaines de milliers d'emplois de logistique en plus, et de l'activité, de la création de richesses, si nos ports étaient compétitifs. Oui. Voilà. Et c'est pas le cas, parce que la CGT a un quasi-monopole d'embauche. Donc moi je dis, il faut casser le monopole des dockers.
Cher Philippe Erlard, il n'y avait pas la CGT au Moyen Âge, et pourtant les ports flamands et les ports d'Italie du Nord étaient quand même beaucoup plus riches et dynamiques que l'étaient les ports français déjà au Moyen Âge. C'est une question aussi de position géographique par rapport au cœur de l'économie européenne.
Non, parce que l'ouverture maritime, en fait, au Moyen Âge, on restait encore assez continentaux. en France, et c'est plutôt sous l'influence des rois, alors Richelieu et d'autres, où on a commencé vraiment. Louis XIV, Louis XVI, hein, la dernière parole de Louis XVI, quand oui. il monte sur l'échafaud, il demande des nouvelles de la Pérouse, hein, qui était en expédition avec ses bateaux. Donc l'ouverture maritime de la France, elle se fait pas au Moyen-Âge, après. Richelieu, Louis XIV, Louis XVI.
Volontariste de l'État.
Donc, on avait, et à l'époque, on avait des ports importants.
Par une politique volontariste de l'État, finalement, pas tellement par le laisser-faire.
Non, mais enfin, à l'époque, on n'était pas dans un système libéral comme aujourd'hui. Donc, à l'époque, c'est l'État qui impulsait.
La marine était une prérogative.
Mais le droit de grève n'existait pas. Oui, mais le droit de grève n'existait pas vraiment à l'époque. Donc, on ne peut pas comparer. Voilà. Mais la France a eu une marine importante, a eu une ouverture maritime. On aurait pu avoir plus. Puis quand on regarde l'histoire de France, on aurait pu faire plus, mais on a quand même fait beaucoup. Et aujourd'hui, parce que si on regarde la situation aujourd'hui, on pourrait avoir beaucoup plus en termes d'emploi et de création de richesses grâce à nos trois façades maritimes, grâce à nos ports. Et malheureusement, on le perd à cause de la CGT. Et la CGT, et les CGT bloquent aussi dans d'autres domaines. Hein, mais et je prends l'exemple.
Oui, bah,
les
ouvriers du livre, etc. Voilà. On se retrouve avec l'idée, malgré tout, d'une libéralisation, en fait, du marché de l'emploi, et avec des corps intermédiaires auxquels on a l'impression que vous ne faites pas vraiment confiance. Voilà, donc, parce que les syndicats sont censés réunir les travailleurs, ils sont de moins en moins représentatifs, mais parce qu'ils ont réussi à obtenir, d'ailleurs par la volonté du législateur, une telle place dans les négociations qu'effectivement, ça ne sert plus à rien pour eux d'avoir des adhérents. Ils sont de toute façon, avec des adhérents en berne, les seuls interlocuteurs reconnus par l'État. Donc, c'est pas juste casser le monopole de la CGT, c'est peut-être aussi redéfinir le rôle du syndicat.
Oui, tout à fait. De toute façon, et puis c'est aussi, mais c'est aussi réduire leur place, parce qu'ils ont trop de pouvoir. Parce qu'on on a beaucoup parlé du rapport à l'oncle. Mais il y a le rapport Perruchot, qui date de... Alors, j'ai noté ça... 2011. Et qui, lui, n'a dont l'apparition a été interdite à l'époque. C'était le seul cas qui existait. Hein. À Longue, ça s'est joué à de peu. Hein. Mais celui-là, Perruchot, il a été interdit.
C'était sur le financement des syndicats.
C'était sur le financement des syndicats. Et il avait soulevé un lièvre. Il avait soulevé, il a vraiment, vraiment, c'était énorme. Et notamment en disant que les syndicats nous coûtaient 4 milliards par an. Alors 4 milliards, c'est pas 4 milliards d'argent de l'État, d'argent public qui sont versés dans les caisses du syndicat. Ce sont surtout des décharges horaires. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont... des syndiqués qui sont payés par leur entreprise et qui, sur une partie de leur temps de travail, le consacrent au syndicat. Et ça représente 4 milliards. Mais ça veut dire que c'est l'équivalent d'une taxe sur les entreprises, parce que les entreprises payent des gens qui ne font pas toutes leurs heures de travail, hein, parce qu'ils sont parce qu'ils travaillent pour les syndicats. Donc ça coûte, c'est quand même une taxe de 4 milliards sur les entreprises. Donc moi, je dis, on supprime ça. Hein. Voilà. Et puis, ils vont se financer par leurs adhérents. Est-ce qu'il peut y avoir un peu de financement public? Bon, pourquoi pas, mais il faut quand même le diminuer nettement. Et puis, voilà.
Mais qu'est-ce que vous pensez du financement des partis politiques, Philippe?
Alors, financement des partis politiques, oui, on est rentré dans un système qui est devenu très confortable pour les partis installés. Parce que ça se fait au nombre de voix aux législatives, pourquoi pas au nombre de voix aux régionales? Ça empêche l'émergence de partis régionaux. Tiens, ça, c'est le côté jacobin français. Tant qu'à faire du financement public, il faut qu'on puisse le faire en fonction des différentes élections. Qu'un parti qui a une implantation régionale puisse bénéficier aussi d'un peu de revenus, pour qu'uniquement les partis nationaux, quoi. Bon.
Et puis ceux qui sont... corruption du système politique comme aux États-Unis, où le fait de lever des milliards et des milliards rend quand même les candidats et les élus, tributaires de leur financier.
Oui, parce qu'aux États-Unis, les entreprises peuvent financer. Voilà. Alors, moi même, je suis libéral, je dis non, on peut pas aller jusque-là, parce que si les entreprises commencent à financer des partis ou des hommes politiques, ça pose un problème de conflit d'intérêts. Mais je considère que des personnes privées doivent pouvoir financer.
C'est le cas.
Alors c'est le cas, mais aujourd'hui, il y a une limite à 7500 euros seulement. Ce qui veut dire que si vous êtes riche, si vous voulez donner 100 000 euros ou 1 million d'euros à un parti politique, vous ne pouvez pas. Donc ça, c'est fait pour...
Enfin, il suffit de demander à l'équipe de Macron en 2017 comment ils ont réussir à contourner la loi.
D'accord,
mais effectivement, c'est un peu compliqué.
Et ça, c'est une façon de gêner les partis de droite. Parce que, les partis de droite... Parti de droite sont plutôt proches des gens qui ont de l'argent, donc les gens qui ont fait la loi se sont dit on va empêcher qu'un parti de droite puisse récupérer beaucoup d'argent de la part de quelques millionnaires. Quoi. Voilà. Moi, je considère qu'il faut faire sauter cette limite. Alors, on peut pas forcément la sauter complètement, mais on peut nettement la remonter, quoi. Voilà, de façon à favoriser le financement par les personnes privées et par les adhérents. Garder un financement public, pourquoi pas, mais encore une fois, moi, je voudrais qu'il soit plus large et que si on le fait... pour les législatives, ben on le fait aussi pour les élections régionales, parce qu'il peut y avoir des élections régionales. Moi, je suis assez favorable à une certaine décentralisation. Il faut redessiner les régions, mais il faut que les régions aient plus de pouvoir, je le pense, un peu plus qu'aujourd'hui.
Quand vous dites redessiner les régions, je crois que ça fait partie des propositions de l'UDR.
Parce que la réforme...
Qui était d'avoir non pas ces super régions, oui, mais de revenir quasiment à une carte où l'Anjou n'est pas le même.
J'ai le droit nostalgique des provinces d'Ancien Régime.
C'est l'UDR qui en est nostalgique.
La réforme de Hollande, je l'ai trouvé stupide parce que ça fait des grands agents qui n'ont plus aucune racine historique. Il faudrait faire justement un mélange entre
la Normandie,
l'ancienne carte et puis les provinces royales. Les anciennes provinces. Il faudra rattacher la Loire Atlantique à la Bretagne.
Carte des départements français est quasi identique à la carte des tribus gauloises.
Et des diocèses.
Ça n'a pas changé, en fait. Donc, il y a des espèces de fondamentaux territoriaux qui ont leur logique.
Et moi, je pense qu'il faut garder les départements et les régions, mais il faut qu'il n'y ait plus qu'une seule assemblée pour départements et régions. Fondre les assemblées départements et régions en une seule, pour faire des économies, une seule administration. Parce que les Français sont attachés à leur département. Ils sont aussi attachés à leur région. Voilà. Mais on ne va pas multiplier le millefeuille, hein. Il y en a assez comme ça. Donc on fusionne département et région.
En fait, vous aviez participé avec vos ouvrages par exemple, 50 milliards d'économies sur le budget 2018, c'est possible.
C'est une étude que j'avais faite pour contribuer à la société.
Et même 3 000 milliards de dettes, ouvrons la chasse aux dépenses nuisibles, ouais, que vous aviez participé à l'ouvrage de la nouvelle librairie. Ça fait partie de votre programme réactualisé.
Absolument. C'est-à-dire, si je me présente aussi, c'est aussi parce que, je ne suis pas ancien député, je ne suis pas ancien ministre, on est d'accord, mais je suis quand même économiste qui a fait un petit peu ses preuves. On va dire, j'ai parlé de l'or dès 2012 en disant c'est un placement d'avenir. Hein. Bon, ceux qui m'ont écouté, aujourd'hui, ils sont contents. Et puis, j'ai publié un premier livre sur le Bitcoin en 2013, hein, même un peu avant, un e-book. Mais bon, livre sérieux en 2013 sur Bitcoin, ceux qui m'ont suivi, ils ont aussi fait une belle opération. Quoi.
Personne n'y croyait à l'époque.
J'ai aussi écrit un livre sur la dette où j'étais dans les premiers. Bon, il y avait aussi Jacques Attali qui en avait écrit un qui était sorti 3 mois avant.
En quelle année?
Alors, celui-là, c'était 2015, je crois.
François Bayrou a fait sa campagne là-dessus en 2007, quand même. On en parlait un petit peu.
Voilà. Oui. Alors, la dette, je ne suis pas le premier sur la dette, mais bon. Je suis le premier en France à avoir popularisé les théories de Mandelbrot et de Taleb dans le signe noir. C'est-à-dire, ça, c'est plus de la théorie économique, mais c'est le fait que le hasard dans l'économie est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Et donc, j'étais un des premiers en France à développer ces théories-là, qui maintenant sont quand même largement admises. Et puis, j'ai écrit un livre sur le pouvoir d'achat. J'ai vu que dans les sondages, le souci numéro un des Français pour la présidentielle, c'est le pouvoir d'achat. Et juste après, la sécurité. Donc, pouvoir d'achat, ça tombe bien. Oui. J'ai créé un livre qui est sorti en 2018, détaillé là-dessus, qui permettait de comprendre pourquoi il y avait des gilets jaunes, pourquoi les gilets jaunes se sont mis à faire grève alors qu'ils faisaient jamais grève. Ce n'était pas des gens qui font grève. Ouais, ils font grève parce que j'ai montré que leur pouvoir d'achat, en fait, baissait, contrairement à ce que nous expliquait l'INSEE. Parce que l'inflation était sous-estimée. Voilà, donc j'ai un peu un historique où j'ai un peu fait mes preuves dans ce domaine, quoi. Et chacun peut s'y reporter pour voir que je me suis pas trop trompé, j'ai même plutôt vu juste avant les autres. Ça me donne une petite légitimité, quoi.
C'est certain, plus que Bruno Le Maire ou Thierry Breton. Allons-y tranquillement. Quand vous proposez justement d'économiser sur le budget 2018, donc on a compris, il y a le fonctionnement de l'État, et notamment ce millefeuille territorial qui coûte horriblement cher. Les 3 000 milliards de dépenses nuisibles, quelles sont les premières dépenses qui, à votre avis, doivent être éliminées? Et est-ce qu'il s'agit uniquement de sabrer ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de réorienter en fait, la dépense publique d'une manière intelligente?
Oui, alors, pour ce sujet-là, il y a beaucoup d'économies à faire et on ne va pas faire une liste. Et en fait, j'ai envie de dire, on les connaît déjà, en fait, parce qu'il suffit de reprendre les rapports de la Cour des comptes ou d'organismes privés comme l'IFRAP ou l'IREF. Pour identifier les dépenses, alors on cite l'Agence française du développement, on peut citer le nombre d'organismes, les ODAC, les organismes associés, enfin comme il y a des dizaines d'organismes qu'on pourrait supprimer, il y a les commissions, on sait qu'il y a beaucoup d'économies à faire. Mais le problème, c'est par où commencer, comment avoir une politique globale par rapport à ça. Et là, il y a deux idées que je propose, j'ai déjà développé une fois il y a longtemps, mais c'est pas repris, donc voilà, sur des idées, je veux dire, nouvelles, originales. Que je propose deux idées. La première, c'est En fait, quand on veut faire des économies budgétaires, il ne faut pas avoir une vision comptable, il faut avoir une vision économique. Parce que si on a uniquement une vision comptable, on se dit « Ah bah si je coupe telle ligne, ça va fâcher tel gens, ils vont se mettre en grève, ça va pas pouvoir, ça va les mettre en difficulté, on va pas pouvoir. Bon. » Une vision économique, on comprend pourquoi cette dépense existe et comment on peut la régler. Je vais prendre un exemple très simple. La France, les, dans le domaine du logement, avec les APL, c'est à peu près 20 milliards d'euros. C'est une somme énorme. Et pourtant, ça ne donne pas beaucoup de résultats parce que les marchés, les prix du locatif est très élevé en France. Et en plus, il y a de la pénurie, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se loger. Et donc, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a un marché du logement qui fonctionne mal. Si on supprime les APL, ça fait une économie pour l'État, il est content. Mais on va mettre plein de gens en difficulté. Bon, donc ce qu'il faut, c'est d'abord libéraliser le marché du logement. Bon, et là, on se rend compte qu'il y a on a un droit du foncier qui est très contraignant. On a un droit écologiste, transition énergétique, DPE, qui est aussi très contraignant. On a trop de fiscalité qui pèse. Ce qui fait que pour quelqu'un qui a de l'argent, bah, ce n'est pas vraiment rentable et intéressant de faire du locatif. J'ai vu il y a un article qui montrait que ça avait un rendement qui était à peine supérieur au livret A, hein, dans le cas où on ne tombait pas sur un mauvais payeur ou un squatteur, hein, parce que là, ça devient négatif. Bon. Donc, autant prendre de l'assurance vie plutôt que de se casser la tête à gérer des locataires. Quoi. Donc, tout ça, il y a tous ces problèmes-là qui expliquent qu'au bout, on est obligé de donner de l'argent à des locataires pour qu'ils ne se retrouvent pas à la rue. Quoi. Donc, il faut d'abord régler ces problèmes-là, c'est-à-dire libéraliser le marché du logement, diminuer la fiscalité qui pèse sur le logement pour rendre l'investissement locatif intéressant pour les gens qui ont de l'argent. Voilà. À ce moment-là, l'offre va augmenter.
Oui.
Et les prix vont baisser, et à ce moment-là, on peut baisser les APL.
Revenons à une vision comptable. Si voilà. Vous diminuez les dépenses fiscales et qu'en même temps, vous maintenez les coûts, les APL, les dépenses, comment vous faites pour qu'entre-temps, l'État ne se retrouve pas en faillite?
Non, mais les économies, on les fait. On les fait globalement. Et ensuite les APL diminuent.
Alors, où est-ce qu'on économiserait, justement?
Je trouve votre raisonnement est super séduisant. En fait. Voilà. Libéralisons le marché du logement. Ça devient plus attractif.
C'est ce qu'a fait Milei. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Ravel Milei. Il a libéralisé. Parce qu'il y a plein de logements qui ne sont pas loués aujourd'hui. C'est-à-dire, ils pourraient être loués, mais ils ne sont pas loués parce que les squatteurs ont trop de droits.
Et d'ailleurs, le PS prévoit de réquisitionner ces logements
donc,
non
les
utilisés.
Les squatteurs ont trop de droits, donc il faut encore renforcer la législation là-dessus. Il faut qu'ils soient virés dans les 3 jours, point à la ligne. Quoi, voilà. Et puis, il y a trop de fiscalité. Donc, le simple fait de changer les règles là, tout d'un coup, même sans attendre les nouvelles constructions, tout d'un coup, il y a des milliers de logements, des dizaines ou centaines de milliers de logements qui vont revenir sur le marché. Déjà, rien que ça, ça va faire baisser les prix. Et ensuite, on pourra diminuer les APL. Ah,
ouais. Mais donc, la question de Lucien Rabouille, c'est de dire, OK, on comprend bien le raisonnement, mais entre vous ne voulez pas mettre les gens à la rue, donc vous allez maintenir la dépense des APL tout en ayant diminué les recettes fiscales, et donc ça va augmenter la dette. Alors, je sais bien, maintenant, avec les niveaux de dette auxquels on a atteint...
Non, mais il y a des économies à réaliser tout de suite. Je parlais de l'Agence française de développement. Il y a beaucoup d'organismes publics, parapublics, qui consomment beaucoup d'argent, ça, on peut couper tout de suite.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas de contrainte. Là, il y a une contrainte sur la dépense, les APL, on ne peut pas les couper tout de suite, au 1er janvier.
Ouais, mais par contre,
on est obligé de les décroître. Mais il y a plein de dépenses publiques qu'on peut couper rapidement. Et il y a aussi une idée que j'avance. Alors,
ça, c'est aussi, la deuxième idée
Voilà. Non, alors la deuxième idée, ça, c'est la première idée, une vision économique et pas comptable. La deuxième idée, justement, pour que tout le monde soit encouragé et impliqué là-dedans, c'est que quand l'État fait 2 euros d'économie, il y a 1 euro qui sert à réduire son déficit et il y a 1 euro qui est rendu en français sous forme de baisse d'impôts. C'est-à-dire que si dans le premier budget, on arrive à trouver 20 milliards ou 30 milliards d'économies, mettons, bon, le déficit, il y a 15 milliards pour l'État, donc le déficit baisse de 15 milliards, ce qui permet d'inverser la tendance. Et puis, il y a 15 milliards offerts aux Français sous forme de baisse d'impôts.
Oui.
Comme ça, ça motive tout le monde parce que Il y a des coupes qui vont... Bah, par exemple, une coupe qu'on fera du jour au lendemain, c'est le chèque culture, par exemple. Ça fait 1 milliard, je crois, ou 1 demi-milliard, 1 milliard, bon.
Et ça ne va pas à la culture.
Mais il y a des familles qui vont être...
AirPods ou...
Voilà.
Ou
mais il y a des familles qui vont être gênées par ça, parce qu'elles en profitent et ça va représenter une petite perte financière pour elles. C'est clair, hein. Bon. Mais si, dans le même temps, elles font leur plein d'essence moins cher parce qu'on aura un peu baissé les taxes sur l'essence, bah, ils se diront, ah, OK, j'ai perdu là, mais je gagne là. Donc, j'accepte ce que fait le gouvernement, que j'accepte cette baisse de la dépense publique parce que je me rends, parce que ça me rapporte aussi tout de suite directement, quoi. Voilà.
Mais toutes les
et ça, c'est une façon de motiver
impôts.
Les Français. Et l'autre élément, et je termine,
oui.
c'est que ça permet aussi de relancer l'économie, parce que en ce moment, on est à 0%. L'INSEE a sorti ses chiffres pour le premier trimestre. On est à 0%, on est en stagnation. Si vous faites 15 milliards de baisse d'impôts, ça va faire de l'activité. Les Français dépensent mieux l'argent que l'État. Hein. Donc 15 milliards rendus aux Français, ça générera de la croissance économique. Et c'est une façon de en relançant la croissance économique, ça facilite aussi la diminution du déficit parce que les rentrées fiscales vont être plus importantes. Donc on va pouvoir diminuer d'autant plus les impôts et les dépenses publiques. Donc on rentre dans un cercle vertueux.
Voilà. Philippe Erlin, juste avant que Lucien Rabouille ne vous oppose une de ces oppositions brillantes que redoutent tous mes invités.
Je voudrais
vous poser la question en fait de la confiance de votre modèle. Je trouve très intéressant l'idée des baisses d'impôts, le fait que les Français vont retrouver du pouvoir d'achat. Ce qu'on voit sur ces dernières années, c'est qu'en fait, chaque fois qu'on a redonné du pouvoir d'achat aux Français, ils avaient tellement la trouille de ce que le gouvernement était capable de faire qu'ils se sont mis à économiser
à épargner,
mais même un écureuil ne serait pas capable de bouffer toutes les noisettes qui ont été mises de côté. Et donc, là, qu'est-ce qui prouve qu'avec vous, ça va marcher ?
Alors, pourquoi est-ce que les gens épargnent ? En fait, parce qu'ils savent... En fait, ils sont plus intelligents que ce que laissent penser les médias. Ils savent qu'ils n'auront pas de retraite. Hein, donc c'est pour ça que les Français aiment beaucoup l'assurance vie, ce qui est d'ailleurs pas le meilleur placement à faire. Hein, il ferait mieux d'investir dans l'or et le bitcoin, mais bon, ça c'est autre chose. Ils aiment beaucoup l'immobilier aussi. Hein, les Français aiment beaucoup l'immobilier parce qu'ils savent que ça, un bien, ça garde sa valeur sur 20, 30 ans ou 40 ans, ça garde son pouvoir d'achat. Voilà, donc parce qu'ils savent qu'ils pourront pas compter en totalité sur les retraites, évidemment, quoi. Donc à partir du moment où on les rassure là-dessus, et pour la retraite, moi je suis favorable à ce qu'on mette une part de capitalisation. Progressivement, à ce moment-là, ils reprendront confiance dans le système des retraites. Et à ce moment-là, en reprenant, si la croissance redémarre grâce aux baisses d'impôts et grâce à on va faire moins de bureaucratie, on va bazarder tout ce qui ressort de la transition énergétique, etc. On pourra y revenir. À ce moment-là, les Français voient que la croissance augmente, le chômage diminue, le système des retraites revient vers quelque chose de plus sain. Et à ce moment-là, ils vont pas épargner tout ce qu'ils vont récupérer, quoi. Ils vont aussi le consommer, ils vont aussi investir. Voilà.
C'est une question de confiance. Et maintenant, c'est l'heure de la question de Lucien Rabouille. Il faut qu'on ait un jingle.
Attention, la suspension dramatique, Richard de Sèze, c'est fascinant. Vous dites que vous ferez participer l'ensemble des Français à ce programme et les baisses de prestations seront compensées par des baisses d'impôts. Mais il est courant de dire qu'en France, la moitié des foyers, précisément, ne payent pas d'impôt, en particulier l'impôt sur le revenu. On a tendance à dire qu'en France... vous avez finalement une part assez modeste des foyers qui supportent l'essentiel de l'impôt. Comment allez-vous rendre ce programme acceptable, populaire pour le plus grand nombre ? Après tout, on vous sait économiste et on vous écoute avec beaucoup d'intérêt, brillant économiste, mais vous entrez dans une logique qui est une logique politique, qui n'est pas la logique de l'intellectuel, justement, qui est la logique du qui gagne. Comment faire avaler ce programme par une majorité de Français ?
Alors, vous dites il y a moins de la moitié des Français, enfin des ménages qui payent l'impôt sur le revenu, c'est vrai. Et ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, ils se rendent bien compte quand ils font leur plein d'essence qu'ils payent des taxes, quoi. Donc les Français sont conscients qu'ils payent des taxes de façon importante, même ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, parce que même ceux qui payent l'impôt sur le revenu, une grande partie payent des taux très faibles, en fait. Voilà. Il y a les taux très élevés qui sont confiscatoires, à mon avis, et qu'il faudra diminuer. Mais ceux qui payent l'impôt sur le revenu, ça les gêne pas plus que ça, quoi. Voilà. Donc, il y a beaucoup qui pourraient... Si on juge uniquement par l'impôt sur le revenu, on pourrait se dire pourquoi les Français auraient intérêt à faire un effort. Non, non, mais ils voient par ailleurs qu'ils payent beaucoup. Et puis, ils le voient aussi sur leur salaire. Hein, quand ils voient le haut de la fiche de paye, et encore, ce n'est pas le salaire complet, parce qu'il y a aussi les cotisations sans patronat, mais quand ils voient le haut de leur fiche de paye, et puis le net, c'est-à-dire ce qu'ils ont réellement dans leur poche, ils se disent « Ah bah, il y a quand même un sacré écart, quoi. » Voilà. Et puis, quand ils voient en contrepartie... ce que valent les hôpitaux, ce que valent les écoles publiques, ils disent c'est quand même un peu cher payé pour le résultat. Donc les Français sont conscients que ça marche pas. Ça, je suis vraiment convaincu. Les Français, même ceux qui payent pas, même ceux qui touchent un peu d'argent de l'État, hein, qui touchent des aides, ils se rendent bien compte que ça marche pas. Hein, parce que quand ils vont à l'hôpital, ça marche pas. Et quand ils voient le niveau à l'école s'effondrer, ça marche pas. Donc moi, je pense qu'ils sont conscients. Alors peut-être que je me trompe. Et peut-être qu'il va falloir attendre qu'on soit dans la situation de l'Argentine avant Milei, c'est-à-dire la ruine encore plus qu'aujourd'hui, et l'hyperinflation, ce qui fait que tout le monde est ruiné, hein, l'hyperinflation, c'est-à-dire que tout ce que vous avez épargné en banque, ça vaut zéro. Hein. Peut-être qu'il va falloir attendre d'en arriver là pour que les gens se réveillent. J'espère pas. On verra. J'espère que les Français vont se réveiller avant. Quoi.
Voilà. Vous parliez d'image choc, vous parliez de slogan choc, et vous citerez souvent en référence l'Amérique latine comme modèle politique, finalement.
C'est les révolutionnaires d'aujourd'hui. Quoi, voilà. Dans les années 60 ou 70, c'était Che Guevara. Maintenant, c'est Milei. Voilà. Voilà.
Il nous apporte le meilleur.
Mais voilà, les propos de Pierre Goldman à son père qui dit « Tu vois la révolution comme l'URSS qui a échoué. Moi, je la vois comme l'Amérique latine. Bah, » Désormais, effectivement, on a ce modèle politique qui se renouvelle comme si l'Amérique latine était le laboratoire de toutes les expérimentations politiques et idéologiques. Les écoliers français, tous les professeurs d'histoire géographie en France ont montré cette image choc de l'Amérique latine, que vous la connaissez, avec d'un côté les ghettos et les favelas au Brésil, de l'autre avec les terrasses, avec piscines, etc. On a tendance à dire que Mexique, Brésil, Argentine, ce sont les pays les plus inégalitaires au monde. Peut-être en raison d'ailleurs de politiques pro-business ou libérales qui auraient été menées. Est-ce que vraiment l'Amérique latine, quand on voit concrètement comment ça se passe là-bas, quand on voit concrètement comment les gens vivent, et à quel niveau d'indécence, de différence de richesse on est arrivé, est-ce que vraiment ça peut constituer un modèle économique, politique, social attractif pour les Français?
Mais ces pays-là ne sont pas libéraux. Enfin, le Mexique, le Brésil, ce sont des pays, au contraire, très étatisés. Le Mexique, alors c'est carrément un narco-État, donc il y a des gens très riches, mais c'est ceux qui font du trafic de drogue. Donc, c'est pas forcément un bel exemple. Alors, il y a quelques entreprises aussi, mais bon. Le Brésil, ce sont un peu les grands propriétaires terriens et ceux qui possèdent les matières premières. Plus ceux qui sont autour de l'État, en fait. Voilà, donc c'est un capitalisme de connivence, c'est un système très étatiste. Et l'Argentine, c'était aussi un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'avant Milei, il y avait des gens qui étaient riches en Argentine. Mais pour être riche en Argentine avant Milei, il fallait avoir les bonnes connexions avec le pouvoir. Donc c'était un système vicié. Alors il y avait effectivement les inégalités, parce qu'il y avait aussi des gens dans les favelas. Mais il y a un économiste sud-américain qui s'appelle Hernando de Soto, qui montrait justement que les gens pauvres dans des pays déficient, dysfonctionnel, comme en Amérique du Sud ou en Afrique, ne pouvait pas s'élever parce que les droits de propriété n'existaient pas. Et lui, l'idée qu'il avait, c'était de dire dans les favelas, donnez-leur le droit de propriété sur leur favela, ça fait quelques mètres carrés, mais enfin, comme il y a une favela en plein Rio, donc le prix du mètre carré, il est énorme.
Au contraire, il est
énorme. Donc, il dit donnez-leur tous un vrai titre de propriété, ils vont vendre. Et avec tout cet argent-là, ils pourront s'acheter une maison en banlieue ou lancer un commerce. Ils deviendront riches du jour au lendemain. Donc, ces pays-là, il y a beaucoup de pauvreté, parce que en Afrique aussi, parce que le système de base est déficient, parce que le droit de propriété ne fonctionne pas. Et quand le droit de propriété ne fonctionne pas, vous n'allez pas investir dans votre champ, dans l'irrigation ou dans un tracteur, parce que n'importe qui, quelle personne proche du pouvoir, pourra venir le prendre et vous aurez tout perdu. Donc, vous vous limitez à une culture vivrière. C'est pour ça que dans beaucoup de pays d'Afrique et d'Amérique du Sud, on se limite à une culture vivrière, parce qu'on se dit je fais vivre ma famille, mais je ne vais pas faire plus parce que sinon on va me le prendre. À partir du moment où il y a le droit de propriété, on rentre dans du vrai capitalisme. Le capitalisme, ce n'est pas le loup et l'agneau. Le capitalisme, c'est le respect du droit. Même si vous êtes petit, mais que vous avez un droit de propriété, personne ne peut vous le prendre, même quelqu'un de très riche à côté. Ça s'appelle le droit de propriété. Bon, donc vous avez un petit terrain. Vous cultivez, vous irriguez, vous avez un tracteur, des engrais, vous gagnez très bien votre vie, voilà, c'est ça le libéralisme. Et ce n'est pas possible dans la plupart des pays d'Afrique et dans beaucoup de pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. C'est d'où la grande pauvreté.
Juste avant qu'on poursuive ce débat, non, c'est pas Richard de Sèze, c'est Richard de Sèze, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, qui est là pour vous rappeler justement que nous vivons sans subvention,
absolument,
sans publicité.
Absolument.
Voilà, nous sommes un exemple nous ne coûtons rien à l'État, ou presque. Donc voilà, n'hésitez pas, vous êtes 1,5 million à nous écouter. Merci d'ailleurs de nous écouter ce soir et d'écouter la passionnante interview de Philippe Herlin, qui a jusqu'à maintenant victorieusement résisté aux assauts de Lucien Rabouille.
Et bien, ça,
si que cette joute suspense continue. Si vous avez envie de revoir Philippe Herlin chaque... Non.
Les soirs. Jusqu'à qu'il tombe.
Bon, n'hésitez pas à donner à Radio Courtoisie. Voilà, vous êtes 1,5 million à nous écouter. Vous êtes moins de 20 000 à nous donner. Voilà. À défaut d'investir dans l'or et les bitcoins, investissez dans l'intelligence et la culture. 5 euros, ça coûte moins cher qu'un bitcoin.
Il faut faire les deux.
Faites les deux. Voilà. Alors commencez par nous donner 5 euros et après Philippe Herlin vous dira où investir pour les bitcoins. Merci beaucoup. Lucien Rabouille, vous aviez une question.
Si on fait un peu d'histoire politique, Les gens l'ignorent, mais le libéralisme en France comme en Grande-Bretagne avait des bases électorales très populaires. David Ricardo, par exemple, était élu par des électeurs qui étaient ouvriers. Pourquoi ? Parce qu'il défendait la libéralisation du prix du grain, l'abolition de l'économie rentière, donc la baisse des prix, donc la nourriture pour le populaire. Et c'était un peu similaire en France. Adolphe Thiers, par exemple, avait des bases aussi électorales très très populaires. Et puis, étrangement, le libéralisme passe en France pour être l'idéologie de défense des intérêts de la bourgeoisie. On se souvient des 4% dans la Madeleine en 2002, essentiellement les voix des hauts revenus, la base électorale par exemple des libéraux en Allemagne, le fameux Freie Demokratische Partei, etc., est aussi plutôt les hauts revenus. N'êtes-vous pas en train d'essayer d'amorcer une transformation politique du libéralisme pour le faire revenir à l'idée que le libéralisme était d'abord là finalement pour corriger certaines inégalités indues, par exemple les inégalités de la rente, celle des droits corporatistes, celle de l'État? Ne cherchez-vous pas à faire renouer avec l'esprit originel de ce libéralisme, qui est beaucoup plus populaire, sinon d'ailleurs même populiste?
Oui, c'est ça, on pourrait dire ça. Et d'ailleurs, moi, je considère qu'il faut remettre en cause le modèle social français, hein, que tout le monde s'attache à défendre, ce qui est un peu une erreur, y compris au Rassemblement National, d'ailleurs. Et puis, à LR, même les candidats les plus libéraux n'osent pas trop taper dessus. Mais ce qu'on appelle le modèle social français, c'est quelque chose qui... C'est en gros le programme du CNR au moment de la libération, qui a été fait par des gaullistes et aussi par des communistes, dans lequel il était prévu, et c'est d'ailleurs ce qui a été fait en 1945, la nationalisation de tous des pans entiers de l'économie. C'est aussi d'ailleurs ce qu'on peut lire dans le préambule de la 4e République, qui est quasiment communiste en fait, parce qu'il écrit, il dit que tous les secteurs essentiels de l'économie doivent être contrôlés par l'État, quoi. Donc c'est quasiment du communisme. Et c'est ce qui a été fait à la libération, et c'est d'ailleurs pour ça que pendant plusieurs années, l'économie n'a pas décollé et a continué de patiner, parce que à la libération, on a nationalisé l'électricité, on a créé EDF, la SNCF, ça datait d'avant la guerre, on a nationalisé les banques, la sidérurgie, et puis ensuite on a dit relancer l'économie, évidemment ça n'a pas marché parce qu'une économie étatisée ça ne fonctionne pas, quoi. Donc pendant 2-3 ans il ne s'est rien passé, il y a les grandes grèves de mineurs, la CGT d'ailleurs déjà, voilà, qui ont failli mettre le pouvoir par terre. Et puis c'est uniquement quand les Américains sont venus avec le plan Marshall, c'est pas tellement les milliards qu'ils ont apporté, c'est qu'il y avait aussi comme contrepartie une certaine libéralisation de plusieurs secteurs, et puis il y a eu la création de la CECA. Oui. Le début de la création de l'Europe, où justement, là, on commence à créer un marché européen du charbon et de l'acier. Donc, on va vers du libéralisme. Et là, ça commence, l'économie commence à décoller. Voilà. Donc, c'est pour bien montrer qu'on nous présente souvent le CNR comme quelque chose de formidable. Non, moi, j'ai dit, c'est une catastrophe. Voilà. Et c'est à la base du modèle social français. Donc, il faut casser le CNR. Il faut casser cette image qu'a le CNR. C'est malgré le CNR et après le CNR qu'on a décollé économiquement. C'est surtout pas grâce à lui. Mais les communistes commencent à nous dire « Regardez, c'est grâce au CNR qu'on est les 30 glorieuses. » Non, c'est quand on a commencé à faire le ménage et à libéraliser qu'on a commencé à avoir de la croissance. Voilà. Et pour revenir sur les retraites, avant la guerre, c'était de la retraite par capitalisation. Et c'est le régime de Vichy qui est passé à la retraite par répartition. Alors, il était contraint parce que les nazis demandaient des frais d'occupation très élevés. L'État n'avait plus d'argent, donc il s'est dit « Je vais aller piquer l'argent des caisses » de retraite des diverses professions, en leur disant, vous inquiétez pas, on va passer à la répartition et les cotisations des travailleurs financeront la retraite. Donc, c'est passé comme ça. Ensuite, à la libération, on a regardé le système. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent avouer que la retraite par répartition a été mise en place par le régime de Vichy. Hein. Mais c'est le cas.
Sous contrainte nazie, surtout.
Voilà. Et donc, il y a une continuité étatique entre le régime de Vichy et le CNR. C'est plutôt comme ça que moi, je vois les choses. Et que donc, c'est pour ça que le modèle social qu'on nous avance là avec la retraite par répartition, la sécu, moi je considère qu'il faut remettre en cause le monopole de la sécurité sociale. Voilà, donc il faut se libérer de ça. Voilà.
Alors, plusieurs auditeurs de Radio Courtoisie ont des questions pour vous. Qui vous fera plaisir. Je suis enthousiasmé par la candidature de M. Herlin, mais je n'adhère qu'à la deuxième moitié de son slogan. Voilà. Est-il possible de participer tout de même à son mouvement au sein d'un courant dissident minoritaire?
Dissident et minoritaire, voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Alors j'ai lancé mon site de campagne hier, herlin27.fr. Voilà. herlin27.fr, et il y a une newsletter, vous pouvez vous inscrire, comme ça permettra de... Restez en contact et vous pourrez suivre
la campagne. Ouais. On fera suivre. Bonsoir messieurs, comment mener une politique comme au Salvador alors que nous avons comme dogme la déclaration des droits de l'homme du plus fort?
Ah non, c'est pas du tout contradictoire. Au contraire, moi je considère que la déclaration des droits de l'homme de 1789 est un texte remarquable. C'est un texte qui est inspiré d'ailleurs de la Révolution américaine, qui a été rédigé, alors j'ai découvert récemment, qui a été rédigé en grande partie par Lafayette. D'ailleurs, il y a une très belle exposition sur Lafayette aux Archives nationales, au Palais de Soubise. Je conseille aux gens d'y aller, une exposition gratuite en plus. Voilà. Et c'est un texte qui garantit le droit de propriété, justement. C'est une constitution qui est très libérale. Donc non, je considère que c'est plutôt un modèle. Et justement, il faut s'appuyer là-dessus pour défendre le libéralisme. Parce que la déclaration de 1789, elle n'est pas... comment dire, elle n'est pas étatiste comme vont l'être toutes celles qui vont suivre.
Oui.
Où on va inclure plein de droits dedans, avoir des droits à ceci, des droits à cela, et ça va devenir des déclarations étatistes, socialisantes. Là, c'est une déclaration qui est très libérale, il y a le droit de propriété. Hein, pour reprendre la formule de Jean-Yann, que j'aime beaucoup, les hommes naissent libres et égaux, et après, ils se démerdent. Donc la déclaration de 1789, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on vous garantit des droits solides, le droit de propriété, le droit d'association. Aussi l'article 17 qui d'ailleurs ensuite a disparu de toutes les autres déclarations des droits de l'homme ultérieures, que ce soit en France ou ailleurs, qui donne le droit aux citoyens d'avoir le détail de toutes les dépenses publiques, hein. Ça aujourd'hui en France ça n'existe pas, il y a des dépenses auxquelles il y a quelques députés qui peuvent y aller sans prendre d'appareil photo et de téléphone pour consulter quelques comptes, mais voilà, mais ce droit-là n'existe pas en France. Moi je dis qu'il faut que les citoyens puissent avoir une connaissance précise de toutes les dépenses publiques. Voilà, et par exemple des comptes de France Télévisions, hein, parce que même à l'oncle, il n'a pas pu avoir toutes les infos. Voilà, donc, non, cette déclaration, elle, au contraire, c'est une base pour avoir quelque chose d'une économie plus libérale en France. Donc.
Alors, par le passé, la libération des loyers a été une catastrophe, un cadeau aux gros propriétaires censés reporter le surplus financier en finançant la construction, d'où plus d'APL, comme Sarko avec la baisse des taxes sur la restauration.
Non, non, parce que, enfin, je ne sais pas à quelle période... fait référence, mais la France a malheureusement une longue habitude du contrôle des loyers, des contraintes. Il y en a aussi qui ont été mises juste après la Deuxième Guerre. Il y en avait aussi avant et ça a contraint le logement à chaque fois. Il ne faut pas simplement libéraliser les loyers, point à la ligne. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une vision économique. Si vous faites que libéraliser les loyers et vous vous arrêtez là, ça va conduire à une hausse des loyers. Ce qu'il faut, c'est que la construction puisse être relancée et ce qu'il faut, c'est que les gens qui ont des logements vides puissent les mettre sur le marché. Et pour ça, il faut leur garantir que si un locataire ne paye pas ou s'il y a des squatteurs, ils sont virés dans les 3 jours. Quoi. Voilà.
Oui.
Et à ce moment-là, l'offre va augmenter.
Mais si on en revient à des enjeux politiques, un
commentaire et pas une question.
Les Français n'ayant aucune culture économique...
Ah non, je ne suis pas d'accord.
Ils n'entendent pas ces raisonnements. L'économie circuit...
Au contraire, tout le monde a une bonne connaissance économique parce que tout le monde gère son budget. Donc ça, je réfute absolument cette idée. Les Français n'ont pas... Non, non.
Bah, ils votent, les Français. Ils ont voté pour les politiques que vous dénoncez, quand même, plusieurs fois.
Il n'y a pas vraiment d'offres libérales. Et puis, quand il y en a, elles ne sont pas top. Parce que Badelard, en même temps, il est libéral. Mais en même temps, il a dit qu'il était favorable à la libération du cannabis. Donc, évidemment, il fait 4%. Quoi. C'est pour ça, des bitcoins et des prisons. Il faut être ferme sur la sécurité. Voilà. Je ne suis pas pour la libération du cannabis. Voilà, hein, voilà, je précise tout de suite.
Vous marchez sur deux pieds.
Voilà.
Et là, il y a des questions quand même. On sent... peut-être que c'est le volet sécuritaire. Bah, Monsieur Herlin parle de socle commun. Qu'en est-il exactement? Comment se concrétise-t-il? La France chrétienne d'une population homogène depuis son origine jusque dans les années 60 doit-elle adapter sa pédagogie à une population scolaire multiethnique et raciale, se plier et se soumettre à cette dernière, ignorante de nos codes civilisationnels et qui pénalise nos enfants et qui n'est que la résultante d'une politique immigrationniste démentielle. Et un autre nous dit, et la remigration est-elle au programme de votre invité?
Absolument. Là, je ne suis plus devenu pour des sujets économiques. Hein.
Mais
en ce qui concerne...
Sans faire d'amalgame, bien sûr.
En ce qui concerne l'immigration, moi, je suis pour la freiner au maximum et je suis favorable à la remigration. On n'est pas beaucoup en France, alors reconquête, c'est aussi le cas de reconquête, il faut le dire. Hein. Et c'est tout. Mais je suis favorable à la remigration. C'est-à-dire que ceux qui sont en France et qui ont un casier judiciaire, au revoir, hein, parce que ce n'est pas possible. Et ceux qui sont en France et qui n'ont pas les moyens, par leur travail, de subvenir à leurs besoins et qui dépendent des aides, au revoir aussi. Hein, parce qu'il faut savoir que la moitié des Algériens, des Maghrébins ou des Africains en France vivent dans des HLM, quoi. La moitié des Algériens en France vivent dans des HLM, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas vivre dans le secteur privé, pour une grande partie. parce qu'ils n'ont pas de revenus, ils sont au chômage ou alors ils ont un revenu très faible. Donc non, le logement social, ce n'est pas fait pour accueillir des étrangers ou des immigrés. Le logement social, c'est pour les Français. Et puis, il faut le réduire. Je suis contre la loi SRU. Bon, ça, c'est un autre sujet aussi, mais voilà. Mais donc, je suis très opposé à l'immigration et pour l'immigration.
La personne qui, tout à l'heure, était pour un courant minoritaire dissident peut peut-être revenir à l'intérieur du courant majoritaire de Philippe Erlin. Voilà, c'est peut-être un peu trop tôt. Philippe Erlin, voilà, on plaisante et merci d'ailleurs d'être un candidat comme ça accessible et qui n'a pas déjà l'impression qu'il est élu. Je vais vous poser rapidement la question. Et pour le moment, il faut des voix. Alors, vous avez remarqué que Jean-Luc Mélenchon, lui, serait pour la libéralisation, si j'ose dire, du marché de la candidature, en disant il suffirait qu'il y ait 100 000 personnes ou 150 000 qui veulent que je sois candidat pour que du coup je devienne candidat. Ce n'est pas une mauvaise idée d'ailleurs.
Si, c'est une bonne idée. Parce qu'actuellement, le système est extrêmement vicié parce qu'il faut 500 signatures de maire et surtout elles sont rendues publiques. Ce qui gêne beaucoup de maires. Parce que
ça ne fait pas partie de la loi normalement. C'est le Conseil d'État qui a décidé de les rendre publiques d'une manière au fur et à mesure.
Oui, voilà, voilà.
Et Frédéric Rouillot a écrit un excellent bouquin sur
voilà,
la question.
Voilà, voilà. Et puis le gouvernement, je crois que c'était sous Hollande ou avant, ne s'y est pas opposé. Résultat, beaucoup de maires sont coincés parce que s'ils se mettent à parrainer Reconquête ou un autre, ou même le RN, ils se retrouvent en difficulté et on les comprend. Ça devrait être secret. Bon, donc c'est vrai que ça limite l'offre et un parrainage citoyen, ce serait une bonne chose. Donc là, je suis d'accord avec Mélenchon. Ça ne va pas m'arriver souvent, mais là, je veux dire que oui, voilà.
Ici, on parle, encore une fois, de logique, de structure politique. Philippe Erlin, combien de divisions ? Y a-t-il un parti ? Y a-t-il des signatures ? Y a-t-il des soutiens ? Où en êtes-vous sur la préparation très logistique de cette campagne ?
Alors, il y a des soutiens, mais je vais les rendre publics progressivement. Voilà, c'est pour ça que je fais les choses progressivement. Il y aura aussi un livre qui sortira en octobre, un livre de politique, de philosophie politique. Pour l'instant, je ne dis pas où, le titre, tout ça, voilà, mais ça sortira.
Non, mais pas contre pas prendre rendez-vous.
Donc, il y a des choses. Il y a des choses qui vont se faire. Et puis, je fais ça aussi pour que d'autres personnes me rejoignent. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui devaient se dire est-ce qu'on peut avoir une candidature libérale et aussi rigoureuse sur le plan de la sécurité.
Avez-vous déjà investi 577 candidats dans les circonscriptions pour pouvoir appliquer votre politique
Non, ça c'est trop tôt. Et puis je ne suis pas dans une logique de division aussi. L'objectif, ce n'est pas de me présenter quoi qu'il arrive, parce que si c'est pour avoir une candidature de témoignage, ce n'est pas la peine. Et ce n'est pas non plus de présenter des candidats pour avoir du financement politique, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Parce que si vous avez plus de 50 candidats qui font 1%, vous avez un financement politique. Mais c'est pas mon objectif. Voilà, je n'ai pas en devenir un rentier de la politique. Je ne viens pas de la politique. Je gagne ma vie. Je travaille dans le privé. Voilà, donc je ne ferai pas ma campagne à temps plein. Voilà, mais en tout cas, je viens du privé. Je connais les contraintes du privé. Je ne suis pas un rentier de la politique. Moi.
Et les maires, où en est-on ?
Les maires, c'est trop tôt. Il faut d'abord être connu. On verra. Quoi. Voilà.
Alors, ça, on a un peu parlé mécanique électorale. On a beaucoup parlé économie. Il y a peut-être d'autres idées économiques que vous voulez nous exposer. J'aimerais revenir sur le volet sécuritaire. Voilà. Alors, il y a cet exemple, effectivement, du Salvador avec la mise en prison brutale et quasi immédiate de tous les gangs en piétinant au passage deux ou trois lois, deux ou trois présomptions d'innocence, avec d'ailleurs les gauchistes américains qui expliquent que c'est horrible et Bukele qui leur répond un truc assez drôle. Bah, je vous les donne tous, vous n'avez qu'à les prendre, évidemment. Bon, et là, bon, les États américains qui expliquaient qu'ils étaient prêts à accueillir l'immigration salvadorienne à l'idée de recevoir l'intégralité des prisons salvadoriennes ont un peu reculé. Cuba avait déjà fait le coup, en fait, avec la Floride, non necessitamos. Et vous savez, c'est le début de Scarface. Il y a Fidel Castro qui dit « Nous n'avons pas besoin d'eux ». Il en profite pour envoyer non pas les prisonniers politiques, mais en fait tous les locdus des prisons cubaines donc qui se retrouvent en Floride. Et ça donne un bon film de Brian De Palma. Sur cette sécurité, on sent bien que il y a une espèce de choc de justice, de choc judiciaire. On ne peut pas brusquement changer tout le code pénal dont l'inflation est absolument incroyable. On ne peut pas changer d'un seul coup tout le corps des juges. Comment faire pour remplir intelligemment ces prisons que vous avez pris le soin de construire ?
Il y a une chose assez facile à faire qui a déjà été faite et qui a fortement déplu aux juges, ce sont les peines planchers. C'est-à-dire que quand vous avez commis tel crime et que c'est déterminé par un procès équitable, il y a une peine planchée. Parce que quand vous voyez les jugements qui sont rendus, je suis un compte sur X qui rend compte de ça. Il y a des gens qui ont commis des crimes assez importants. Et puis, ils se retrouvent avec quelques mois de prison ou un an, c'est-à-dire un bracelet chez eux. Quoi. Voilà, donc en mettant une peine
c'est
planchée...
C'est l'observatoire des décisions de justice.
Voilà, l'observatoire
c'est
des décisions
génial. De justice. J'adore ce compte. Ce qu'elle raconte est absolument atroce.
Voilà. Et à chaque fois, et on est effaré quand on lit ce compte. Quoi, parce que ça va jusqu'à 7 ans, jusqu'à 10 ans, jusqu'à 20 ans. Mais concrètement, c'est un an sous bracelet. Quoi. Donc c'est effarant. Quoi. Donc en mettant une peine planchée, voilà, ça ne va pas plaire au juge. Hein. C'est pour ça qu'ils poursuivent Sarkozy de leur vindicte. Hein, parce que lui, il avait osé mettre des peines planchées, donc je pense qu'il faut remettre des peines planchées tout de suite. Après, la justice, il y a problème de la formation des juges. Tout est centré dans une école à Bordeaux, l'École nationale de la magistrature, où tous les profs sont des gauchistes, donc ça fonctionne un circuit fermé. Il faudra permettre à des personnalités qu'on fait une carrière dans la justice ou pas forcément, ben voilà, qu'on de la bouteille, comme on dit, qui souhaitent devenir juge après une formation. Voilà, ce serait bien d'avoir une diversité de profils. Plutôt
un peu
d'avoir...
comme au Mexique.
Alors, le Mexique, je ne citerai pas comme exemple, par contre. Hein,
mais parce qu'ils ont décidé d'élire leurs juges, justement.
Alors, ça, c'est un autre point auquel on peut penser aussi. C'est le fait d'élire les juges. Ça se fait aux États-Unis, élire les juges, élire les procureurs. Bon, est-ce qu'on peut l'adapter à la France? Est-ce qu'on peut faire des élections? Bon, mais pourquoi pas aussi? Mais en tout cas, il faut casser la justice aujourd'hui qui a un système complètement fermé, qui tourne sur lui-même et qui est phagocyté par la gauche, en fait.
Dans ces prisons donc, que vous avez fait construire, vous êtes un candidat qui respecte ses promesses. pas encore élu et déjà les promesses sont respectées. Les gens sont enfermés. Est-ce qu'on ne peut pas aussi réformer, par exemple, une partie du système judiciaire? On prend quelqu'un en flagrant délit qui est en train de trafiquer de la drogue. Parfait, on le prend automatiquement. Il n'y a pas besoin de passer devant un juge. Un mois de prison, 5 jours.
Il faut quand même passer devant un juge.
2 semaines. Il y a ce qui est de l'ordre du jugement. Et il y a aussi, comme je fais un excès de vitesse, je suis puni. Aucun juge ne me signifie, après un procès contradictoire, que je vais devoir payer une amende. Je commence par payer l'amende et si ça m'amuse, si j'ai le courage insensé de me lancer dans la contestation de ma contravention, je peux y aller. Il y a suffisamment de délits, de flagrants délits, où justement on pourrait se dire libéralisons là aussi en fait, l'exercice de la justice. Le représentant de la loi peut y aller.
Je crois qu'il faut regarder le procès quand même, mais une initiative originale que je implantais en France, je crois que tu es seul à en parler, mais qui se pratique beaucoup aux États-Unis, par exemple en France, pour faire tomber quelqu'un qui vend de la drogue et tout ça. Vous demandez à un policier, alors éventuellement d'une autre ville pour pas qu'il soit connu, de venir en civil pour acheter la drogue. Il vient, il achète la drogue, ok, merci, au revoir. Et puis ensuite, on arrête le bonhomme et puis le policier vient témoigner contre lui et à ce moment-là, il va en taule tout de suite.
C'est la police de proximité ?
Non, en France, c'est interdit, ça.
Oui, parce qu'on n'a pas le droit de provoquer au délit.
Voilà, on n'a pas le droit de provoquer au délit. Donc ça oblige les policiers à faire des heures de plan dans les appartements, dans des camionnettes, avec des téléobjectifs, et ils perdent énormément de temps avec ça, parce que c'est le bas de la pyramide, c'est pas ça qui est important, c'est tous les échelons au-dessus. Donc le bas de la pyramide, faut pas perdre de temps, faut les arrêter, quoi, voilà, et puis ensuite les faire parler en leur expliquant qu'ils prendront beaucoup, beaucoup de prison s'ils donnent pas les N+1 et N+2, etc. Et ça existe aux États-Unis. Voilà, donc ça, c'est une réforme que je veux implanter en France, pour faciliter le travail de la police, pour mettre la main sur le premier niveau de la délinquance, pour qu'ils puissent ensuite se concentrer sur les niveaux supérieurs, qui eux sont un peu plus compliqués, évidemment, parce que ces gens-là ne s'exposent pas dans la rue. Et ça permettrait d'arrêter vraiment beaucoup de gens rapidement. Quoi. Tous ceux qui font la chouffe, comme on dit, la surveillance, hop, pht.
Voilà. Effectivement, donc une fois que l'armée est privée de ses soldats...
Les met tous en prison, ça va vite poser des problèmes au réseau de drogue, hein, parce qu'ils vont avoir des tout d'un coup, tout leur premier niveau de vendeurs et de surveillants vont se retrouver en prison. Ah, ça va désorganiser. Quoi. Voilà, et là, c'est intéressant pour la police, parce qu'ils vont voir les mecs sortir du terrier, quoi.
Philippe Perrin, il nous reste 2 minutes. Mmh. Est-ce qu'il y a encore une proposition que notre conversation n'a pas permise mettre au jour?
Il y en a plusieurs. On pourrait parler de l'énergie, on en a parlé un peu hier. Alors sur ce qui concerne la santé et l'alimentation, parce qu'on est un peu à la limite de l'économie et tout ça, mais moi par exemple, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est quelque chose qui me reste sur la gorge, hein, en travers de la gorge, donc je considère que c'est pas quelque chose du passé, et je considère qu'il faut Déjà, il faudra offrir un test gratuit pour les Français qui sont fait vacciner pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, parce que les vaccins ARN, ce n'est pas très sûr. Et puis, il faut aussi qu'il y ait des procès pour les gens qui ont imposé l'obligation vaccinale et une commission d'enquête parlementaire. Voilà, ce serait bien, une belle commission d'enquête parlementaire pour faire le point sur tout ce qui s'est passé. Voilà,
vous serez chef des armées et représentant de la France à l'étranger si vous êtes élu.
Oui.
Qu'est-ce que vous inspire la situation aujourd'hui? Est-ce que vous êtes pour, par exemple, maintenir l'engagement de la France dans l'OTAN, dans la guerre en Ukraine, aux côtés des...
Alors, il reste une minute. comment dire rapidement j'ai une position internationale un peu originale, parce que je suis à la fois pro-Israël et pro-Russie. Donc, je considère qu'il faut arrêter de soutenir l'Ukraine tout de suite, hein, parce que d'ailleurs, c'est une guerre provoquée par l'État profond américain, alors État profond démocrate. Hein. Voilà, donc c'est une guerre stupide qui n'aura jamais dû avoir lieu. Donc, je considère qu'il faut arrêter d'aider l'Ukraine, il faut signer une paix rapidement et retrouver des relations économiques avec la Russie, qu'on puisse continuer d'acheter du gaz et du pétrole comme on le faisait avant. Et pro-Israël, donc il faut soutenir. Moi, je suis d'accord avec ce que fait Trump en Iran. Même si je déplore que c'est plus difficile que ce qui est prévu, que le régime arrive à se planquer sous les montagnes et à tenir. Voilà, j'aimerais que ce régime tombe. Mais globalement, je suis d'accord avec cette intervention, parce que l'Iran avec la bombe nucléaire, c'est quelque chose de catastrophique. Voilà.
Eh bien, écoutez, il nous reste 11 secondes. Merci beaucoup, voilà. Philippe Erlin, d'être venu présenter quasiment pour la première fois ce programme. Bien sûr, on vous suivra avec attention jusqu'en mai 2027. Et je vous souhaite d'ici là la meilleure des chances. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et demain, c'est...
Ça suffit maintenant.
Demain, ce sera quelqu'un d'autre.